Bonjour à tous. J'aime bien, quand j'étudie un texte, d'utiliser une méthode. Et dans cette méthode, je regarde d'abord le contexte. Donc dans cette première partie, je vais parler du contexte de la prédication qui va suivre. Nous étudierons le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens. Avant ces trois chapitres, il y a forcément deux autres chapitres. Et c'est ça que je vais vous résumer. L'Épître aux Philippiens est écrite par l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Philippiens, Philippe, pour l'instant ça se tient. Paul est assez lié avec cette église. Paul a reçu de l'argent quand il était en déficit budgétaire. Paul a à cœur cette église, on le voit dans le chapitre 1, il dit qu'il a de l'affection pour cette église. Philippe était une ville assez prospère dans l'Antiquité. Dans cette ville, il y avait beaucoup de richesses minières. L'empereur, en 31 avant Jésus-Christ, avait posé une colonie de vétérans de la garde romaine. Et dans cette ville de Philippe, on trouvait beaucoup d'anciens militaires, puis des chrétiens d'origine juive et non-juif. Au chapitre 1, on voit que Paul s'adresse aux diacres, aux évêques, aux anciens, aux membres de l'Église. Et en fait, il parle de diacres, saints et évêques. Il s'adresse à toute l'Église, sans distinction particulière. Paul commence, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11 du chapitre 1, à reconnaître qui sont les Philippiens. Il va prier pour eux, il va remercier Dieu parce qu'ils prennent une part active au message de l'Évangile. Il va prier pour eux, pour demander à Dieu que Dieu les fasse grandir et qu'ils puissent grandir dans la connaissance de Dieu en ayant une pleine intelligence. Et je renvoie à une ancienne prédication que j'ai faite le 23 mars. Donc vous pourrez avoir un peu plus du contexte. Où je reprenais la prière des versets 9 à 11 du chapitre 1. Une fois que Paul a prié, il va les rassurer. Il va les rassurer parce que Paul lui-même est en prison. Il est en prison parce qu'il dérange, parce qu'il a annoncé l'Évangile, parce qu'il a annoncé le message de Jésus-Christ. Et les personnes qui l'ont mis en prison n'apprécient pas ce message. Paul leur demandait de changer de façon de voir, de changer de paradigme. Il leur demande de regarder les intérêts des autres avant les leurs. Il leur demande de regarder Christ au lieu de leur ventre. Il leur demande de rechercher la satisfaction de Dieu et non la leur. Mais Paul, malgré qu'il soit en prison, est heureux. Heureux de voir que le message qu'il annonce bouge les gens, les remue, les fasse réfléchir. Paul est heureux de voir que les personnes puissent être mises devant leurs responsabilités. L'église de Philippe n'est pas démotivée de voir que leur apôtre est en prison, mais bien au contraire, ils sont encore plus motivés pour, à leur tour, vivre l'Évangile, pour vivre une vie conforme à ce que Dieu demande. Les Philippiens ont compris toute la portée de l'Évangile, en tout cas, donne l'impression qu'ils ont compris toute la portée du message de l'Évangile. Ils ont compris qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire de Dieu à venir, pour reprendre une parole de Paul qu'il a dit aux Romains. Si on continue dans le chapitre 1 et 2, Paul va les avertir malgré tout de ne pas annoncer l'Évangile n'importe comment. Il va leur dire « la fin ne justifie pas les moyens ». Ce n'est pas parce qu'il faut annoncer l'Évangile qu'il faut aller escroquer des gens pour gagner de l'argent là-bas, pour pouvoir l'injecter là-bas. En gros, il dit, la fin ne justifie pas les moyens. Il va leur rappeler quand même qu'il y a une éthique à avoir. Il va leur rappeler l'unité, l'humilité, en prenant l'exemple de Jésus, au chapitre 2, des versets 1 à 4. Il va leur rappeler que l'Évangile se vit et qu'il faut être cohérent dans ce que nous faisons. Paul leur rappelle que vivre une vie de chrétien, c'est aussi un combat. Un combat, justement, contre nous-mêmes, qui voulons chercher des fois son intérêt au lieu de Dieu. Un combat contre les personnes, enfin, du moins, contre les mauvaises tendances, contre leur chair, et qu'il faut malgré tout rester conforme à ce que Dieu demande. C'était le contexte. Prochainement, nous verrons un peu plus le texte de Philippiens 3.
Gladiateur, l'empereur veut te parler.
Je suis au service de l'empereur.
Relève-toi.
Ta renommée est bien méritée, l'Espagnol. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de gladiateur qui t'égale. Quant à ce jeune homme, il dit que tu es la réincarnation d'Hector. Où est Hercule? Mais c'est au héros lui-même de se présenter. Quel est ton nom? Tu as bien un nom tout de même.
Mon nom est Gladiateur.
Comment oses-tu me tourner le dos, esclave? Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes.
Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord. Général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre.
Armes !
Le thème du message, c'est l'identité. Toi, qui es-tu? Comment tu te décris? Comment tu te perçois? Nous allons voir Philippiens 3. Joli. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation. Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui célébrons le culte par l'Esprit de Dieu, qui mettons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Moi pourtant, j'aurai des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres considèrent qu'ils peuvent mettre leur confiance dans la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le huitième jour, de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant à la passion, persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. En fait, je considère tout comme une perte à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, mais avec celle qui est par la foi du Christ, une justice venant de Dieu et fondée sur la foi. Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu tout cela, ni que je sois déjà parvenu à l'accomplissement, mais je le poursuis, tâchant de le saisir, pour autant que moi-même j'ai été saisi par Jésus. En ce qui me concerne, mes frères, je n'estime pas moi-même l'avoir déjà saisi. Mais une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si donc nous sommes des gens accomplis, tenons-nous-en à cette pensée. Et si, sur quelques points, vous pensez différemment, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous. Car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant, j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout assujettir. Ainsi, la lecture de Philippiens 3. Nous voyons dans ce texte que Paul met en garde les Philippiens contre les mauvais, contre les ennemis de la croix. On voit clairement qu'il dessine deux portraits. Un portrait, je pourrais caricaturer, des méchants, et un portrait des bons chrétiens. Le but de Paul n'est pas de faire un éloge sur ce qu'il ne faut pas faire. Mais le but de Paul, c'est que les chrétiens de Philippe grandissent dans l'amour, grandissent de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin de discerner ce qui est excellent, le meilleur, au vu du jour de retour de Christ. Voilà le but de Paul. On va commencer par voir le portrait des ennemis de la croix, ou des méchants. Ça, c'est la deuxième phase de l'étude, c'est une étude d'observation. Voilà. Dessine-moi un ennemi de la croix. J'ai relevé au verset 2, « Prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux partisans de mutilation. Ils mettent leur confiance dans la chair. Ils sont ennemis de la croix du Christ. Leur Dieu, c'est leur vente. Leur gloire, c'est ce qui fait leur honte. Et leurs pensées, ce sont les choses de la terre. » Voilà la description qu'on a de ces personnes. Mais, maintenant qu'on a vu ça, on a repéré ça, qui sont ces personnes? La question, c'est, est-ce que les personnes des versets 2 à 4 sont les mêmes que les personnes des versets 18 et 19? Les commentateurs ne sont pas d'accord ensemble. Certains diront que c'est un même groupe de personnes, d'autres diront que c'est deux groupes. Dans le premier cas, ils sont tous d'accord pour dire que c'est des personnes qui veulent rétablir certains actes rituels de la juif, comme la circoncision, on voit les questions de mutilation, les questions de circoncision. Certains disent que c'est que ces personnes. Dans l'autre catégorie, les versets 18 à 19, il y en a qui ajoutent que c'est des chrétiens qui seront un peu plus libertins. L'idée, c'est qu'ils se disent libres parce qu'ils sont en Christ, et comme Paul aurait pu dire aux Romains, c'est pas parce que vous avez la grâce que vous pouvez faire n'importe quoi. Ils ont pour Dieu leur ventre, leur gloire, leur liberté, c'est ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre, ça c'est la finalité. Et ils oublient Dieu. Pour ma part, mon avis, c'est la même catégorie de personnes. Je pense que Paul a encapsulé son passage avec les mêmes personnes. Ces judaïsants, c'est comme ça qu'on les appelle, des judaïsants, des gens qui veulent rétablir certaines pratiques juives, dans le culte chrétien se détourne de Dieu. Ils se détournent de Dieu, pas parce qu'ils veulent se détourner de Dieu, mais parce qu'ils ont recherché l'excellence, peut-être pour aller vers Dieu, et ils ont oublié de s'appuyer sur Dieu. Ils deviennent de plus en plus meilleurs avec Dieu. Et ce qui fait qu'ils oublient des fois que c'est Dieu qui les fait devenir meilleurs. Donc ces personnes ne sont pas des gens qui veulent arriver vers Dieu par leurs propres moyens. Pas forcément. C'est des personnes qui veulent plaire de plus en plus à Dieu et qui, pour pouvoir plaire de plus en plus à Dieu, vont vouloir faire de plus en plus de choses. C'est ce que Paul reprocha aussi aux Galates. Et on a aussi les gens qui veulent faire des choses pour Dieu, pour essayer de se racheter. On voit bien, quand vous péchez, quand nous péchons, on aurait tendance à vouloir faire des choses pour aller vers Dieu. Alors que Dieu nous demande simplement de revenir à lui et de lui demander pardon. Mais notre tendance, c'est à vouloir faire des choses pour nous rapprocher de Dieu. La deuxième question par rapport à ces personnes, j'ai déjà un peu évoqué, c'est quelles sont-elles par rapport à l'Église ? Pourquoi je dis que ces personnes sont des chrétiens, a priori des gens de l'Église, et pas des gens consciemment mauvais ou qui veulent détourner des chrétiens ? Parce que Paul, il en parle en pleurant. Vous allez me dire que c'est un peu faible. Hein. Paul en parle en pleurant. Paul les met en garde. Et en général, quelque chose de gros, on ne va pas mettre en garde. Je ne veux pas dire forcément à une personne, fais attention, il y a un bulldozer qui arrive à 250, ou doucement, reste pas devant, il va le voir clairement. Paul, on a vu dans le chapitre 1 qu'il a de l'affection pour les Philippiens. Il est ému quand il en parle au chapitre 1. Là, il en parle en pleurant. Quand il parlera des non-croyants, il n'en parle pas en pleurant si on regarde les autres épîtres ou même dans cet épître. Il est triste, il a tristé, mais il n'en parle pas souvent en pleurant. Paul veut les mettre en garde. Certes, peut-être contre des personnes, du coup, qui vont les amener à mal vivre une vie de chrétien comme Dieu le voudrait. C'est peut-être une mise en garde de l'extérieur, mais aussi une mise en garde de l'intérieur. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux partisans de la mutilation. Les chiens, dans la Bible, on a un panel de gens qui sont traités de chiens. C'est comme ça. Hein. Les cadavres sont mangés des fois par les chiens. On voit le cadavre de Achab et Jézabel dans Un Roi. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien du tout ? Ils vont se faire bouffer par des chiens. On a aussi les ennemis de David qui sont traités de chiens dans le psaume 22. On a aussi Jésus qui parle des chiens pour dire des personnes qui sont contre lui dans Matthieu 7. Donc c'est des personnes qui, au fond, ne font pas ce que Dieu veut. Et pour finalité, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu eux et non l'Éternel. La solution que Paul propose, je reviens au chapitre 1, c'est que les chrétiens de Philippe s'ancrent toujours plus dans la connaissance et la pleine intelligence de Dieu. C'est que les chrétiens aient une relation plus intime encore avec Dieu, qui recherchent l'excellence, qui recherchent une foi solide, que s'il y a une tempête, qu'il ne soit pas emporté, mais que l'excellence soit recherchée, donnée par Dieu, et pas par eux-mêmes. Paul les invite à réfléchir. À réfléchir à la lumière de l'enseignement qu'ils ont reçu au départ, à l'évangile qu'ils ont écouté. Le diable, ce personnage, va tout faire pour nous détourner de Dieu, va utiliser des failles dans nos comportements, des péchés qu'on n'arrive pas, que nous sommes en train de combattre encore actuellement, pour nous éloigner de Dieu. Et un exemple très simple, l'argent. Il y a des chrétiens qui ont des voitures de fonction. Et l'entreprise paye le carburant. Voilà. Mais ils ne payent pas le carburant pour que vous partez en vacances. Mais les chrétiens vont dire l'entreprise paye, c'est normal. C'est convenu comme ça dans le contrat. Et ils n'ont plus conscience qu'ils arnaquent l'entreprise. Parce que ce n'est pas convenu qu'ils prennent le carburant pour le week-end, parce que le carburant s'arrête le vendredi soir et reprend le lundi matin. Le week-end, on ne peut pas prendre de carburant. C'est interdit. Mais pour eux, ça ne les dérange pas. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois des petits glissements comme ça, des raisonnements, et qui nous éloignent de Dieu, de notre éthique à avoir ? Je n'ai pas de voiture de fonction avec le GBU. Malheureusement. Un ennemi de la croix va regarder au final à son intérêt et non à celui de Dieu. Mon but n'est pas de définir tous les travers des ennemis de la croix. J'ai résumé par ennemi de la croix, mais c'est parce que le terme me plaisait bien. L'intérêt, c'est de voir aussi ce qu'un chrétien doit être. Et là, je dessinerai le portrait du chrétien. Si on continue notre observation, on voit qu'il y a plus d'indications sur l'attitude du chrétien que des mauvais ouvriers. Au verset 3, nous sommes des vrais circoncis. Leur fierté est en Jésus-Christ et pas dans la chair. Ils seront trouvés avec la justice venant de la foi et non par leur propre justice. Leur but, c'est de connaître Jésus, la résurrection. Son but, c'est de courir vers le but en oubliant ce qui est derrière et en tendant vers Dieu. C'est des gens qui avancent en équipe et ils ont des modèles solides. Paul. Ils sont citoyens des cieux. Ils attendent du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui les transformera dans un nouveau corps. Et le verset que je n'ai pas lu, c'est qu'ils se réjouissent dans le Seigneur. Voilà la description qui est faite des brebis. Paul met sa fierté et sa confiance en Jésus. Voilà, c'est les trois points qu'on va voir. Il met sa confiance et sa fierté en Jésus, premièrement. On voit qu'il y a une rupture de comportement quand Paul en parle. De vision, de but. On voit quand il parle des vrais circoncis, des faux circoncis, que les premiers mettent leur confiance dans la chair et lui en Jésus-Christ. Que lui, il a pour Dieu l'éternel et les autres ont pour Dieu leur ventre. On voit qu'il y a une vraie dualité quand il fait la description. Et ce changement de comportement est seulement induit par Jésus. Et seulement induit parce que les chrétiens tournent leur regard vers Jésus. L'ordre créationnel a été bouleversé à la chute. En Genèse 3, c'était le bazar. Au départ, nous avions Dieu qui dit à l'homme ce qu'il doit faire, à l'homme et à la femme, hein, je vous dis, et l'homme et la femme, il leur dit de gouverner sur la terre, de régner sur les animaux, de travailler. À la chute, c'est le contraire. On a un renversement de situation. C'est le genre animal, qui est symbolisé par un animal, hein, qui va dicter à l'homme ce qu'il doit faire, qui va le tenter, et l'homme va dire à Dieu, laisse-moi gérer. C'est plus Dieu qui gère. Donc on a un renversement à la chute, c'est plus Dieu qui gère sur l'homme, c'est l'homme qui va dire à Dieu, laisse-moi faire, je fais ce que je veux. Et du coup, le problème vient de là. L'ordre est changé. L'homme va regarder ce que lui veut faire et plus ce que Dieu veut qu'il fasse. Et le but de Paul, le but de la conversion, hein, c'est de remettre Dieu à sa place de créateur et nous de créature. Et quand il y a un créateur, il y a forcément des choses qui en découlent. Il y a une soumission, il y a une écoute, il y a une relation avec Dieu. Paul, je dirais lui-même, c'est pas qu'il ne peut pas mettre sa confiance dans la chair. Il a tous les moyens pour la mettre dans la chair. On voit au verset 5, il est circoncis le huitième jour de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant à la passion persécuteur de l'Église, quant à la justice de la loi, irréprochable. Il a plus de choses pour pouvoir mettre sa confiance en lui-même. Il a plus de choses que les autres pour mettre sa confiance en lui-même qu'en Jésus-Christ. Et pourtant, il dit qu'il considère tout comme une perte à cause de la supériorité qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Il dit que connaître Jésus est beaucoup fois beaucoup mieux que la connaissance des choses matérielles. Paul se rend compte que Dieu est Dieu, que Dieu est grand, et Paul remet Dieu à sa place de créateur. Il n'a plus aucune raison de se prendre lui-même pour Dieu. Il voit son infériorité par rapport à Dieu. Pour reprendre un théologien, John Piper, il dira que Paul veut restaurer et remettre en place le règne de Dieu dans le cœur des croyants. Remettre Dieu à sa place de roi et que son règne, c'est-à-dire qu'on reconnaisse son autorité tout le temps. Paul dit aux Philippiens, c'est ce que je veux pour vous. Que Dieu reste toujours votre norme, et non plus vous. La connaissance de Dieu, c'est ce qui doit faire notre joie. Paul est en prison quand il écrit cette lettre. Il est joyeux, parce qu'il a la connaissance de Dieu. Paul, il a la connaissance, il fait confiance en Dieu, il met sa fierté en Jésus. Et Paul court vers ce but. Le but de Paul est de connaître Jésus pleinement. Il écrit au verset 10, « Il s'agit maintenant de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré, semblable à lui dans la mort, pour parvenir, si possible, peu importe les moyens, à la résurrection d'entre les morts. » Paul, il attend la gloire avec Dieu. Il attend d'être avec Dieu, pleinement avec Dieu, plutôt. Il attend de pouvoir avoir un corps glorieux pour pouvoir se réjouir pleinement avec Dieu. Les souffrances pour Paul ne sont pas un but. C'est parce qu'il recherche. les souffrances, il en parle un petit peu, mais c'est juste parce qu'elles sont là. C'est... Il s'agit maintenant de le connaître, lui ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré semblable à lui dans la mort, pour parvenir, peu importe les moyens, selon des traductions, hein, si possible, peu importe les moyens, à la résurrection d'entre les morts. Donc le moyen pour parvenir à la résurrection, lui s'en moque. Ce qu'il veut, c'est y arriver. Donc s'il y a des souffrances, c'est pas grave, il est heureux, parce qu'il parviendra à la résurrection d'entre les morts. Il en parle aussi dans le chapitre 1 des souffrances, quand il va les motiver pour vivre une vie pleinement en Christ. L'apôtre adopte cette ligne de conduite. Tout faire pour la gloire de Dieu. Tout faire pour être trouvé digne de l'appel céleste. Il le dit qu'il ne parviendra pas à la résurrection, qu'il ne parviendra pas à la perfection. Mais il tente au maximum de s'en approcher, en oubliant ce qui est en arrière et en regardant vers Jésus. Son objectif, c'est seulement Jésus. Il appelle les Philippiens à regarder seulement vers Jésus et pas à regarder ce qui pourrait faire d'eux des gens meilleurs, mais ce qui fait d'eux des gens meilleurs, des gens différents, c'est qu'ils sont avec Christ. Vers quoi nous courons? Quels sont nos buts? Quels sont nos objectifs principaux? L'apôtre ne dit pas de tout laisser ici, de vivre comme des ascètes, comme des gens enfermés dans des cabanes, en attendant le retour de Jésus. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, est-ce que votre objectif principal, c'est de voir Jésus? L'Ecclésiaste nous appelle à profiter de la vie. Et Dieu nous a donné la création, ce n'est pas pour rien. Mais il nous appelle aussi à nous souvenir que c'est lui qui est aux commandes de tout, que c'est lui qui nous donne cette création, et que tout ce qu'on peut faire est pour lui. Paul parle juste des fondements. Quel est le but de ma vie? Paul a mis sa fierté en Jésus-Christ, a mis sa confiance en Jésus. Paul court vers le but parce qu'il a une nouvelle identité. Ce nom d'identité est dans les cieux. Paul est de la lignée d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. Mais ça, c'est avant. Maintenant, il est citoyen des cieux. Son identité est dans le royaume céleste. C'est ce qui le définit. La citoyenneté nous donne des droits et des devoirs. Un citoyen a un droit de cité où il habite. Un citoyen travaille pour une cause commune. Après, on ne le remarque pas forcément. Mais en tout cas, dans l'idéal, c'est ça. Un citoyen français travaille pour la cause commune de la France. Peu importe ce qu'elle est. Paul est citoyen des cieux. Il prend une part active à son nouveau pays, à son royaume. Il a des droits. Ces droits lui sont donnés grâce au sang de Jésus. Ces droits, c'est de pouvoir participer, d'une part, à la vie de ce royaume, de vivre en harmonie avec Dieu, d'être dans la gloire de Dieu, de discuter avec Dieu. C'est parce qu'il est citoyen des cieux qu'il peut avoir une relation particulière avec Dieu. Il a aussi le privilège d'écouter Dieu. Il a pour privilège d'avoir Dieu pour chef. C'est un privilège d'avoir Dieu pour chef. Hein. C'est pas... Il n'est pas là que pour... Mais il y a aussi des devoirs. Le devoir d'aimer son Dieu. Le devoir d'aimer son prochain. Le devoir de chercher les intérêts des autres avant les siens. Le devoir d'être cohérent entre ce que Dieu nous demande et ce que nous faisons. Le devoir, je parle de devoir, j'entends par cela rechercher d'être de plus en plus meilleur pour Dieu, avec Dieu. Pas par nos propres moyens, mais par les moyens que Dieu nous donnera. Et de ne pas vivre dans un comportement, on pourrait dire, libertin. J'ai l'esprit, je suis avec Dieu, et je fais n'importe quoi. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de l'écouter, d'être avec lui, d'être en phase. Paul dit qu'il est citoyen des cieux. Il attend Jésus qui viendra et le transformera en corps glorieux pour le transporter dans cette cité de manière définitive. La question du départ, c'est qui es-tu ? Quand une personne vous demande qui vous êtes, qui dites-vous être ? Comment vous allez vous définir ? Votre travail, vos hobbies, certaines personnes vont parler des enfants, d'autres vont parler de leur travail. Quand est-ce que vous présentez votre foi? Un jour, au GBU, après une conférence, un monsieur vient me demander qui je suis. Et j'étais très embarrassé. Je ne savais pas comment lui répondre, parce que je savais de toute façon qu'il allait me piéger. Et J'ai brodé un peu n'importe comment, dans tous les sens, pour parler de ma foi, mais pas trop quand même. Voilà, j'étais pas très clair. Dans la rue, parce que c'était un contexte particulier, le GBU, c'est une œuvre qui a pour but de parler de l'Évangile, donc c'est un contexte particulier, mais maintenant, dans la rue, quand les gens me demandent qui je suis, je parlerai pas forcément de ma foi. Je parlerai de mon travail, qui est en rapport avec ma foi, mais je parlerai pas forcément de ma foi. Est-ce que je dis « Je suis Michael et mon père, c'est Dieu » ? Je ne le dis pas. Ça pourrait paraître un peu orgueilleux, mais pourtant c'est bien vrai. Est-ce que je veux dire « Je suis Michael, je travaille au GBU, j'ai fait des études en informatique et je suis citoyen des cieux ?» Les gens vont me prendre un peu pour un illuminé, quoique c'est vrai de l'intérieur. En fait, le vrai souci que je constate, c'est qu'on ne pense pas à dire notre foi, à dire que notre identité est en Christ. C'est une question souvent qui vient après. Mais les premières choses qu'on va dire, c'est notre prénom, nationalité, que sais-je. Mais notre foi ne vient pas souvent en ligne de compte. Parce que soit on n'y pense pas, soit que nous estimons que notre vie n'est pas assez cohérente. Nous estimons que la manière dont je vis, c'est une mauvaise image pour Dieu, et du coup je ne veux pas le dire pour ne pas tâcher l'image de Dieu. C'est une certaine prudence qui est honorable, il me semble. Mais le but n'est pas de savoir si c'est bien ou pas, le but c'est, dans ces cas-là, de vouloir être plus honorable, de pouvoir plus plaire à Dieu, pour pouvoir affirmer notre identité. Nous disons souvent aussi que toute ma vie est pour le Seigneur, je suis pleinement à Dieu. Enfin, on écoute beaucoup de phrases comme ça. Et alors, pourquoi, si c'est vrai, on ne le voit pas plus? Ça ne s'exprime pas plus, de manière verbale ou non verbale. Hein. Quelle est mon identité? Les vacances, la plage, souvent c'est le relâchement. Enfin, relâchement, déjà le mot est un peu mal choisi, comme si c'était quelque chose d'une contrainte, et du coup on se relâchait pendant les vacances. En tout cas, c'est souvent la porte à la débauche pour les jeunes, un peu aussi l'évasion pour les autres, et on oublie Dieu, on met Dieu aussi en pause. Alors, la foi, c'est ce qui nous anime. Qui je suis. Pour résumer, Paul met en garde les chrétiens de Philippe contre les ennemis de la croix, ces ennemis de la croix qui peuvent être aussi eux-mêmes. Il va décrire dans ce passage deux portraits. Le portrait de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut pas être, et le portrait de vers quoi il faut tendre. Les portraits de ce qu'il ne faut pas être amènent à se détourner de Dieu, nous amènent à vivre une vie sans Dieu et avoir Dieu pour ventre, avoir notre ventre pour Dieu. Je croyais pas l'anglais. En revanche, les chrétiens ont pour Dieu l'Éternel, celui qui est. Les chrétiens doivent être fiers d'être en Jésus. Ils doivent être fiers de vivre selon les lois de leur nouvelle identité. Les chrétiens ont pour identité citoyens des cieux. Leurs pensées ne sont pas fixées vers eux-mêmes, mais vers Dieu. Le chrétien met Dieu sur son trône et honore son règne. La norme, non plus nous, mais Dieu. Et la dernière phase d'une étude d'un texte, c'est l'application. Vous avez vu, on a fait le contexte, on a observé, on a un peu interprété, enfin j'ai interprété, et je vous propose une application pour ne pas partir à vide. Est-ce que vous avez conscience de vos combats qui pourraient vous éloigner de Dieu? Est-ce que j'ai conscience de mes combats qui m'éloignent de Dieu? Quel est mon objectif principal de ma vie, de mois, des années qui passent? Si je fais un bilan, quels ont été mes objectifs? Et est-ce que je suis heureux de vivre avec cette nouvelle identité? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce que je trouve dur de vivre dans cette nouvelle identité? Je vous propose un peu de réfléchir à ces questions.